Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, l'effroi à nouveau à Paris. Une attaque a eu lieu ce matin dans la rue des anciens locaux de Charlie Hebdo, où s'était produit l'attentat de janvier 2015. Un homme muni d'un gros couteau s'est jeté sur deux personnes, les blessant grièvement. L'homme, présenté comme le suspect, a été interpellé. Nous consacrerons une grande partie de ce journal en français facile à cette actualité.
Et dans l'actualité également, de nouvelles arrestations dans les milieux pro-kurdes qui soutiennent les Kurdes. Les faits reprochés remontent à l'automne 2014 lors de manifestations en soutien à la ville syrienne de Kobané, peuplée de Kurdes.
Et puis le retour des manifestations de la jeunesse pour le climat. Elles se tiennent le vendredi, mais ces manifestations étaient perturbées ces derniers temps en raison de la pandémie de coronavirus. C'est une situation d'ailleurs qui oblige les militants à revoir leur stratégie.
Le journal.
En français facile.
Plus de 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, une attaque a donc eu lieu ce matin dans la même rue.
Oui, dans le 11e arrondissement de Paris, un homme a attaqué deux personnes au hachoir. Le hachoir, c'est un gros couteau de boucher. Les deux victimes sont un homme et une femme, grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger, a précisé le Premier ministre Jean Castex, qui s'est rendu sur place. Ces deux personnes effectuaient une pause dans leur travail. Il s'agit d'employés d'une société de production. L'homme suspecté d'être l'auteur de cette attaque a été arrêté à quelques centaines de mètres de là. Il s'agit d'un homme de 18 ans, d'origine pakistanaise. Un second suspect est un Algérien de 33 ans. Pour le moment, pas de revendication, mais la justice antiterroriste s'est saisie de l'affaire. C'est manifestement un acte de terrorisme islamiste, a déclaré ce soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui estime que la sécurité aurait dû être renforcée dans cette rue où donc se trouvaient, vous l'avez dit Sylvie, les anciens locaux de Charlie Hebdo. C'était en janvier 2015. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
J'ai demandé au préfet de police de me dire pourquoi nous avons sous-évalué la menace dans cette rue, la rue Appert. Il y a eu un attentat. Quand il y a eu un attentat, c'est que manifestement, on aurait pu faire mieux. J'ai d'ailleurs donné comme consigne aujourd'hui, je voudrais le dire, que tous les sites symboliques où on a connu des attentats, comme l'Hypercacher par exemple, ou le Bataclan, connaissent désormais, à partir du moment où je vous parle, des gardes statiques. Et j'ai pris la décision que ce week-end et lundi, vous savez, c'est des fêtes juives importantes pour nos compatriotes juifs, que les synagogues soient particulièrement protégées, parce qu'on sait que nos compatriotes juifs sont aussi la cible, et même particulièrement la cible des terroristes islamistes.
Voilà, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était ce soir l'invité du journal télévisé de France 2.
Et ce qu'il faut rappeler, Romain, c'est que cette attaque intervient dans un moment très particulier.
Oui, en ce moment se tient le procès des attentats de janvier 2015, qui avait fait 17 morts. L'émotion et le symbole donc sont très forts ce soir. Marie Cazadebet.
Le lieu d'abord. L'attaque a eu lieu devant le 10 rue Nicolas Appert. C'est l'ancienne adresse de Charlie Hebdo, là où les locaux du journal se situaient avant l'attentat du 7 janvier. Depuis, l'équipe travaille dans des bureaux dont l'adresse est tenue secrète. L'assaillant savait-il ou non que la rédaction avait déménagé? En tout cas, c'est devant ce même immeuble que les deux victimes ont été agressées. Elles sont employées par une société de production dont les bureaux sont aussi au numéro 10. Déjà, il y a 5 ans et demi, les salariés de cette entreprise avaient été témoins du drame de leur voisin de Charlie. Certains étaient même intervenus pour venir en aide aux survivants. Depuis le début du procès des accusés des attentats de janvier 2015, le 2 septembre, la rédaction de Charlie Hebdo fait l'objet de nouvelles pressions. À l'occasion de l'ouverture des audiences, elle a décidé de republier les caricatures de Mahomet qui font d'elle la cible des djihadistes depuis 2006. Il y a quelques jours, la directrice des ressources humaines du journal a dû être exfiltrée de son domicile en raison de menaces jugées sérieuses. En soutien, près d'une centaine de médias ont publié mercredi une lettre ouverte à appelant les Français à se mobiliser pour la liberté d'expression.
Marie Cazadebet et la rédaction de Charlie Hebdo a publié un communiqué après cette attaque. Toute l'équipe ne peut que condamner cet acte ignoble et soutenir les victimes et leurs familles dans cette épreuve. Loin de nous terroriser, de tels événements doivent nous rendre encore plus combatifs dans la défense de nos valeurs. Fin de citation.
Une attaque qui a secoué le cœur de Paris par mesure de sécurité. Plus d'une centaine d'écoles ont été confinées.
Oui, interdiction d'entrer ou de sortir une grande partie de la journée jusqu'à ce que les parents des enfants soient invités à venir chercher leurs enfants. Écoutez le témoignage de Titouan.
On était dans la cour en train de jouer. Ils nous ont expliqué qu'il y avait une personne assez folle dans les rues, dans le 11e. Et elle avait gravement blessé plusieurs personnes. Notre maîtresse est venue nous chercher dans la cantine. Et donc on est arrivé en classe, elle a tout fermé et tout. Et en fait, on n'a pas pu travailler, on a fermé les rideaux et tout.
Voilà, Titouan, élève dans une école donc située dans le secteur où s'est produite l'attaque, qui donc ce matin a fait 2 blessés graves, on le rappelle, dans la rue où se trouvaient les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris.
Le journal en français facile.
Également dans l'actualité internationale, à nouveau les milieux pro-kurdes soutenant les Kurdes qui se trouvent dans le viseur des autorités turques.
Oui, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de plus de 80 personnes. Des mandats d'arrêt, ça veut dire que ces personnes sont désormais recherchées dans le but d'être arrêtées. Parmi elles, il y a de nombreux membres du principal parti pro-kurde, le HDP. Les faits qui leur sont reprochés remontent à l'automne 2014, quand avaient éclaté en Turquie des manifestations de soutien à la ville de Kobané, qui est située en Syrie, et où une majorité de Kurdes vivent. Le HDP dénonce des arrestations politiques. Explication en Turquie de notre correspondante Anand Lauer.
Dès les premières heures du jour, des policiers ont frappé aux portes de 82 personnes dans 7 provinces de Turquie. Le coup de filet vise principalement des membres du Parti démocratique des peuples, le HDP, dont le maire de la ville de Kars, dans l'est du pays, et d'anciens députés ou cadres dirigeants du principal parti pro-kurde. Leur point commun, ils étaient tous en poste début octobre 2014, quand des manifestations avaient éclaté en soutien à la ville kurde syrienne de Kobané, assiégée à l'époque par le groupe État islamique. Les protestations avaient dégénéré en affrontements violents avec les forces de sécurité, mais aussi entre groupes politiques rivaux. Selon le bilan officiel, 37 personnes avaient été tuées. Le parquet d'Ankara, qui coordonne l'enquête, accuse notamment les suspects d'avoir, je cite, « appelé à de nombreuses reprises le peuple à descendre dans la rue dans le but de mener des actions terroristes ». Dénonçant ce coup de filet mené 6 ans après les faits, des responsables du HDP ont fustigé une opération politique visant, selon eux, à affaiblir davantage leur parti, dont des milliers de membres ont déjà été arrêtés ces dernières années. Parmi eux, l'ancien co-dirigeant du parti, Selahattin Demirtas, incarcéré depuis 4 ans. À Nantes-Loire, Istanbul, RFI.
Et parmi les personnes recherchées, 20 ont été passées en garde à vue, annonce le parquet d'Ankara.
Et puis ce vendredi, c'était une nouvelle journée de mobilisation des jeunes pour le climat.
Oui, le mouvement Fridays for Future, qu'on va traduire par les vendredis pour le futur. Mobilisation à travers l'Europe, de Berlin en Allemagne à Vienne en Autriche, en passant par Stockholm. Stockholm où le mouvement a débuté il y a 2 ans avec la jeune militante Greta Thunberg. Elle était présente comme chaque vendredi ou presque aujourd'hui devant le Parlement suédois. Mais Agnès Rougier, ce mouvement évolue. En raison de la pandémie, les manifestations ne peuvent pas se tenir comme avant.
Oui, entre une rentrée scolaire quelque peu chaotique et l'arrivée de nouvelles consignes pour limiter les rassemblements pour cause de pandémie, il s'avère compliqué d'organiser une rentrée militante. Mais le réchauffement n'est pas mort et il faut montrer qu'on est là, a déclaré Léna Lazar, porte-parole de la branche française de Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Cette rentrée préfigure un changement de stratégie du mouvement des jeunes pour le climat afin de s'adapter au contexte. Les militants veulent se concentrer sur la résistance et la résilience au niveau local. Ils pensent stratégiquement plus efficace de voir avec les groupes locaux quelles sont les problématiques sur lesquelles agir, par exemple la construction d'infrastructures pour ces grands projets dits « inutiles » dans un esprit d'autodétermination et d'autogestion. Et ils ont en perspective la date du 17 novembre qui devrait être une grande journée mondiale d'action et de mobilisation des jeunes pour le climat.
Agnès Rougier.
Enfin le sport, le tennis, avec les premières sensations des meilleurs joueurs à Roland-Garros.
Oui, avec les premiers entraînements des numéros 1 et 2 mondiaux, le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur à 12 reprises sur la terre battue parisienne, faut le rappeler. Cette année, les conditions sont exceptionnelles. Évidemment, en raison de la pandémie, le tournoi a été décalé de 4 mois. Il fait donc beaucoup plus froid à Paris. Ce sont les conditions les plus difficiles que j'ai jamais connues, a dit Rafael Nadal, donc tenant du titre. Début du tournoi ce dimanche et bien sûr vous pourrez le suivre sur RFI. Voilà, c'est ainsi que s'achève le journal en français facile, bientôt 22h10 ici à Paris. Merci Sylvie.
Merci Romain.
Et il est 2h de moins en temps universel, donc 20h10 en temps universel.